Bonjour à tous. Je suis Caroline Dubois, l'hôtesse de cette seconde édition du Sommet mondial de la réussite. Si vous voulez connaître les différents obstacles qui vous empêchent de réussir, et si vous voulez vous reconnecter à la partie de vous qui cherche le chemin vers l'audace, cette conférence vous comblera. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'exceptionnelle et dynamique Brigitte André. Brigitte André du site mondayattitude.com. Brigitte est criminologue de formation, consultante, formatrice, coach et conférencière depuis plus de 25 ans. Elle est l'auteure de 4 livres. Elle signe son 4e, Un voyage pour être heureux. Conte initiatique qui touche tout le monde dans son évolution. Elle a mis au point 2 concepts efficaces tant au niveau professionnel que personnel. La théorie du self-leadership, de la réussite, et les techniques de démêlage de nœuds relationnels. Lors de ces conférences, Brigitte va vous aider à découvrir la manière de passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence « Ceux qui réussissent et les autres, 4 obstacles à dépasser ». Et joignez-vous à moi pour accueillir Brigitte André. Bonjour Brigitte.
Bonjour Caroline.
C'est quoi le sommaire aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui m'est cher, qui est effectivement la réussite, mais surtout la réussite de certains et pas d'autres. On dit souvent que peu échouent, mais beaucoup abandonnent. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la partie de nous et la partie des autres aussi, qui est en phase avec la réussite et celle qui nous pose problème dans la réussite. Et donc, je vous parlerai des 4 obstacles qui sont sur notre chemin et qui sont aussi des lieux d'évolution personnelle.
Parfait. Et donc, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire cette Monday Attitude, le nom de ton site. Voilà.
Qu'est-ce que j'aime bien cette question, Caroline ? Eh bien, le nom de mon site Monday Attitude, c'est un petit peu un clin d'œil. C'est un clin d'œil parce que quand j'ai démarré, et là je vais parler un petit peu de moi, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'ai commencé dans une banque, une des plus grosses banques du pays. Et quand je suis rentrée dans l'équipe, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait des mots à utiliser et des mots à ne pas utiliser. Et donc au simple « Bonjour, comment ça va ?» Eh bien, moi, je répondais, ça va très bien. Super, on est là, on va bien s'amuser, on va passer une chouette journée ensemble. Et les autres qui étaient là depuis une dizaine d'années, parfois 15, 20 ans, répondaient toujours d'une manière assez identique. Le lundi, ils répondaient, ça va comme un lundi. Le mercredi, ils disaient, ça va. Et à partir de jeudi, ils s'autorisaient à répondre, chouette, demain c'est vendredi. Et moi, de manière constante, je disais tous les jours, ouais, ça va, c'est super, je suis contente d'être là. Et je me souviens d'un monsieur qui était là depuis 15 ans et qui m'a regardé au bout de la 4e semaine avec un air très inquiet et très surpris. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va passer. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis rendu compte que là, j'étais complètement en contre-pied avec eux parce qu'il y avait une sorte de modus vivendi, une sorte de langage commun qui s'autorisait à prouver ou à montrer qu'on était démotivé. Et que ce « bof, ça va comme un lundi » ou « chouette, demain, c'est vendredi », eh bien, c'était une manière de se déresponsabiliser face à sa réussite, face à son bonheur, face à sa motivation. Et de dire, eh bien, si je ne suis pas heureux, si je ne réussis pas, si je suis dans quelque chose qui est de l'ordre de la démotivation, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de ce chef qui ne sait pas me motiver. C'est de la faute de cette société qui n'est jamais en phase avec le marché, etc. Ou c'est de la faute de mon mari qui n'est pas capable de me dire bonjour ma chérie d'une manière agréable. Et donc j'ai voulu, avec ce nom, Monday Attitude, lancer un peu un pavé dans la mare en disant « reprenons un peu les choses autrement ». Et pour moi, la Monday Attitude, c'est avant tout une philosophie de vie. C'est de se dire que chaque moment que l'on a dans sa vie, que ce soit un lundi matin ou n'importe quel autre moment de la semaine, eh bien, on a l'occasion de faire quelque chose pour se surprendre et pour arriver là où on a envie d'arriver. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Caroline ?
Oui, tout à fait, c'est parfait. En fait, tu peux repartir dans quels sont, dis-nous un petit peu, quels sont ces fameux 4 obstacles à dépasser pour réussir.
Alors voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai dit, beaucoup abandonnent, mais peu échouent. Et c'est vraiment très important comme phrase, même si elle est un peu cruelle. Parce que, justement...
Tu as dit peu échouent. Beaucoup abandonnent et peu échouent.
Beaucoup abandonnent et peu échouent. Tout à fait.
Ah oui, c'est ça. OK.
Et donc, pour reprendre cette phrase, beaucoup abandonnent et peu échouent, ça veut dire que effectivement, sur le trajet de la réussite, il y en a beaucoup qui laissent tomber. Mais ceux qui ne laissent pas tomber, eh bien, ils vont vers la réussite. Et pourquoi est-ce qu'ils laissent tomber? Parce que la vie est comme ça. Et on dit souvent que ce qui est important, c'est pas l'arrivée, mais que c'est le chemin. Et le chemin vers la réussite, il nous présente 4 obstacles. Et ces 4 obstacles qui sont des lieux d'évolution personnelle et qui sont nécessaires pour se construire, pour apprendre à se connaître, pour se développer. Et les 4 obstacles dont je vais vous parler aujourd'hui sont, le premier, l'acceptation molle. Évidemment, je vais vous le développer tout à l'heure. Le deuxième, c'est notre propre résistance au changement. Le troisième obstacle, c'est agir pour agir, mais pas pour la réussite. Et c'est un point très important que je vais développer tout à l'heure. Et le quatrième obstacle, c'est ne pas être capable de capitaliser sur l'estime de soi. Alors peut-être déjà que dans ces 4 obstacles, vous vous dites « Tiens, moi je me retrouve quelque part ». Et il y a peut-être un endroit où effectivement je ne dépasse pas et donc je reste sur la route tout simplement, mais je reste aussi à côté de mon projet. Enfin, quand je dis je reste sur la route, ça veut dire aussi j'ai déposé mon bagage, je n'avance plus, mais donc je reste à côté de moi, je reste à côté de mon projet. Et donc ce sont les 4 obstacles dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est OK ?
Oui, c'est impeccable. J'ai juste pas bien entendu le dernier, c'est ne pas être capable de capitaliser sur son estime de soi, c'est ça ?
Oui, sur l'estime de soi. Ne pas être capable de capitaliser sur l'estime de soi.
Ok, parfait. Ben, écoute, tu peux démarrer avec le premier.
Ok. D'abord, je vais démarrer en vous disant, en fait, quelle est la différence entre ceux qui réussissent et les autres ? Je vous ai déjà donné un petit indice qui est, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Mais c'est aussi autre chose, c'est une disposition de l'esprit. Parce que la réussite, c'est avant tout une disposition de l'esprit. Et pour ça, j'ai envie de vous proposer, et je vais vous faire écouter d'ici quelques secondes, un petit extrait d'un film bien connu, qui est 1492, Christophe Colomb. Je vais vous proposer d'écouter une minute, une entrevue entre Christophe Colomb et son pire ennemi, Sanchez. Alors, c'est pas anodin si je vous propose d'écouter ce petit passage. C'est parce que dans nos projets, dans la route vers la réussite, nous avons tous des Sanchez. Nous avons tous des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui font en sorte que on ne réussisse pas ou qui nous démotivent, qui nous enlèvent toute notre motivation. Et justement, ceux qui arrivent à réaliser ce qu'ils veulent réaliser, eh bien, c'est ceux qui ont été plus forts que Sanchez parce qu'ils ont utilisé, ils ont en tout cas une attitude vis-à-vis de la vie qui est très différente. Alors, je vais vous passer ce petit extrait qui est justement cet échange entre Christophe Colomb et Sanchez, alors que Christophe Colomb a déjà beaucoup voyagé, qu'il s'est cassé la gueule il s'est trompé, il a échoué dans certaines colonies. Il se retrouve face à son pire ennemi. Et je vous propose de noter, peut-être c'est l'instant justement de prendre une petite feuille de papier, de noter la différence que vous voyez entre Sanchez et Christophe Colomb. C'est-à-dire la différence entre Christophe Colomb qui a été vers ses projets et Sanchez qui a refusé quelque part d'aller vers ses projets. Donc voilà, je vous laisse une minute avec cette petite scène et avec cette musique qui nous emporte. Et puis, je vous propose au travers de ça de voir la différence d'attitude. Je vous souhaite une bonne audition.
Vous n'êtes qu'un rêveur. Regardez dehors. Que voyez-vous ? Je vois des tours. Je vois des palais. Je vois des clochers. Je vois la civilisation. Et je vois des flèches s'élever jusqu'au ciel. Cela fut créé par des hommes comme moi. Aussi longue que soit votre vie, Sanchez, il y a une chose qui ne changera jamais entre vous et moi. Je l'ai fait. Et vous, non.
Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti au travers de ce dialogue. J'imagine que vous avez compris qui était Sanchez et qui était Christophe Colomb. Et la différence entre les deux, c'est effectivement une différence avant tout d'attitude. Quelle est cette différence ? Eh bien, la différence, c'est que ceux qui n'habitent pas leurs rêves ne voient en général que ce que le regard leur montre, les clochers, les flèches, les palais. Ils restent dans leur zone de confort, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Ils restent en retrait. Ils sont effectivement ceux qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Ils font la guerre aux autres. Ils sont soumis, ils sont dans l'envie et sont aigris. Et à la grande différence de ceux qui habitent leurs rêves, où l'attitude face à la vie est complètement différente, eh bien ceux-là, ils cherchent à voir au-delà des limites. Ils partent à la découverte de l'inconnu et de leur inconnu. Ils osent leur zone de risque. Ils cherchent à se dépasser, parce que c'est une aventure aussi que de se dépasser. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas dans l'envie, surtout. Ils vivent. Et mon souhait, c'est que à la fin de cette conférence, eh bien, vous ayez, vous aussi, reconnecté cette faculté que nous avons tous en nous de vivre et d'être heureux. Alors, le bonheur, on en parle. Le bonheur, mais ça n'a rien d'extérieur. Le bonheur, c'est la réussite. C'est un ensemble de petites réussites. Et la réussite est une émotion particulière qu'on ressent à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut donc dépasser nos quatre obstacles.
Donc c'est quoi les quatre obstacles alors ? Tu commences avec le premier ?
Je commence avec le premier obstacle, et le premier obstacle c'est l'acceptation molle. Nous sommes nombreux à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, parce que nous avons bien souvent, et nous préférons bien souvent, un petit bonheur maintenant, alors qu'on sait qu'on aura au-delà de ça un grand malheur, plutôt qu'un petit malheur maintenant, alors qu'on sait qu'après on peut avoir un grand bonheur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est bien souvent, on se contente bien souvent de toute une série de choses dont on n'a plus envie, et on ne s'en rend même pas compte. Et pourtant, le succès est dans l'équilibre. Alors, j'ai juste envie de vous raconter une toute petite histoire qui va bien illustrer ça, même si elle est caricaturale. C'est l'histoire du monastère de Brunwald, où les règles étaient désespérément strictes. Et c'était la loi du silence. Par contre, tous les 10 ans, chaque frère avait l'occasion de dire 2 mots. Chaque moine avait donc l'occasion de dire 2 mots, mais pas plus. Et un moine, le moine Hans, la première tranche de 10 ans, dit « Lit dur ». « Ah, je vois », répond le supérieur. Et 10 ans s'écoulent, et 10 ans plus tard, le moine Hans revient et dit « Eh bien, les 2 mots que tu veux nous dire, c'est quoi ?»« Nourriture, pu. » « Ah, je vois », dit l'abbé. 10 ans s'écoulent encore, et le moine revient et dit « Je pars ». Et son supérieur lui dit « Eh bien, ça ne m'étonne pas, tu n'as pas arrêté de te plaindre ». Eh bien, c'est un petit peu comme nous. Rester dans l'acceptation molle, c'est ça. C'est rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. L'acceptation molle, c'est aussi vérifier que tous les piliers de notre vie, c'est-à-dire les 9 sphères de notre vie, les 9 piliers, sont en bonne santé. Je vous propose d'écrire sur une feuille de papier quels sont ces piliers de notre sphère, de notre vie. Alors les piliers de notre vie, c'est évidemment la sphère familiale, c'est la sphère amoureuse, c'est la sphère des finances, c'est la sphère du lieu de vie, c'est la sphère sociale, la sphère santé, la sphère professionnelle, la sphère personnelle, et puis la sphère aussi des loisirs, etc., de la culture, de son développement à soi. Et ce qui est important dans l'acceptation molle, c'est que bien souvent, on a la plupart de nos piliers qui sont en bonne santé, mais il y en a 1 ou 2 qui ne vont pas bien. Et il faut se rappeler en permanence que c'est le succès de ces différents piliers qui va nous amener à la réussite. Imaginez quelqu'un qui fonctionne extrêmement bien au niveau professionnel, qui donc ramène beaucoup d'argent, qui donc au niveau de sa sphère finance, lieu de vie, sa sphère sociale, le professionnel, est tout à fait OK. Par contre, il a tellement investi dans son boulot qu'au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux, ben, ce sont des sphères qui sont d'une pauvreté exemplaire. Mais il va s'en contenter jusqu'au jour où le déséquilibre est tellement fort qu'il ne peut plus continuer, il est obligé de se regarder, de regarder autour de lui et de faire le point. Alors, comment est-ce qu'on fait le point? Et je vous propose aussi là quelques minutes de réflexion et je vous propose de choisir une sphère parmi celles que j'ai citées. Si vous souhaitez, je les redis. La sphère famille, la sphère amour, la sphère finance, la sphère lieu de vie, la sphère sociale, la sphère professionnelle, la sphère personnelle, la sphère de la santé et la sphère loisirs, culture, etc. Choisissez la sphère qui, à votre avis, est la plus en déséquilibre et est la plus difficile aujourd'hui et qui pourrait précisément mettre tout le château en difficulté parce que vous n'osez pas, et c'est bien souvent ce qui nous passe, c'est que quand nous sommes dans une difficulté, on accepte avec mollesse la situation en se disant que de toute façon ça va s'arranger ou que c'est pas si grave que ça, alors que c'est fondamentalement important. Alors si vous choisissez une de ces sphères, je vais vous proposer de vous poser les questions suivantes. Parce que, justement, ça va vous permettre d'identifier le démarrage d'un processus de réussite. Et le démarrage du processus de réussite, soyons heureux, c'est l'insatisfaction. Et donc, s'il y a une sphère qui est justement plus faible que les autres, eh bien, c'est celle-là sur laquelle je vous propose de pencher votre attention et de la saisir au vol, pour répondre aux questions suivantes. La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que aujourd'hui vous avez comme résultat dans cette sphère? Autrement dit, qu'est-ce que aujourd'hui vous avez ou qu'est-ce que vous êtes dans cette sphère-là? Je donne par exemple un exemple. Je donne un exemple. Au niveau de ma sphère amoureuse, je pourrais dire je suis célibataire. C'est un résultat. C'est aujourd'hui le résultat de tous les actes que j'ai posés auparavant. Je pourrais dire dans ma sphère professionnelle, je suis surchargée, overbookée. C'est aussi le résultat de tous les actes que j'ai posés auparavant. Et donc, pour sortir de ce premier obstacle qui est l'acceptation molle, la première question à se poser, c'est quel est le résultat que j'ai aujourd'hui dans la sphère dans laquelle je devrais porter toute mon attention? Je vous laisse quelques secondes pour écrire la réponse à cette question.
Quel résultat donc?
Quel est le résultat? Et le résultat ne se manifeste jamais qu'en termes d'être ou d'avoir. Il n'est pas une action. Et donc soyez très attentifs à ne pas poser, à ne pas écrire de verbe d'action. C'est pas « je gagne », c'est pas « je travaille », c'est pas « je vis en couple ». Non, c'est « qu'est-ce que j'ai aujourd'hui en termes de résultat, c'est d'avoir être ou avoir ». La deuxième question que je vais vous poser, c'est de la même manière. Quel est le résultat que vous voulez obtenir dans cette sphère-là à une date qu'il vous appartient de préciser? Je vous donne un exemple. Eh bien, au 31 décembre 2014, j'ai l'équilibre dans ma vie professionnelle. Je suis capable de dire non et j'ai au moins 4 jours de congé par semaine, le rêve. J'ai donc fixé un but, plus exactement un point de mire, c'est-à-dire que j'ai fixé une date auquel j'ai assorti le résultat que je veux obtenir. Et ce résultat sera aussi la succession quelque part de toutes les actions que j'ai posées jusqu'à la date à laquelle je vais atteindre ce résultat. De la même manière, je vous laisse quelques secondes pour écrire quelle est la date et quel est le résultat que vous voulez obtenir dans la zone, dans la sphère que vous avez choisie. Et sans doute que vous pourrez revenir après ce moment de conférence maintenant. Il est évident que si vous estimez que vous êtes heureux à 100% dans votre vie, c'est pas la peine d'essayer de vous trouver des problèmes. Par contre, si comme 80% des gens, il y a une zone dans laquelle vous êtes moins satisfait et effectivement qui ne va pas s'arranger toute seule sans que vous la preniez en charge, eh bien alors ça vaut la peine de vous mettre en route et vraiment de dépasser les limites que vous avez mise aujourd'hui, parce que derrière cette acceptation molle, il y a des croyances sur vous, il y a des croyances sur la vie, il y a des croyances sur votre environnement, et aussi il y a pas mal de peur, la peur de traverser sa zone de confort. Parce qu'une zone d'acceptation molle, quelque part, on sait qu'on n'y est pas bien, mais on sait aussi qu'on ne prend aucun risque et que dans le risque, justement, on prend un risque, donc on peut se mettre en danger. Tandis que si on accepte avec mollesse le fait que je travaille trop, je sais pas dire non, j'ai pas assez d'argent, je suis célibataire, mais bon, ça s'arrangera bien un jour et le prince charmant viendra bien un jour. Mais si je ne me mets pas en route, eh bien je reste dans ma zone de confort. Et peut-être que dans 20 ans, je serai encore capable de dire, eh ben non, je suis toujours célibataire. Et donc, ce que je vous propose, c'est sortir de cette acceptation, prendre la vie à bras le corps et aller vers ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif. Et ça doit être tellement clair que vous devez être capable de le dessiner, de le visualiser, de le voir et de le placarder sur votre frigo.
Extra. Ça, c'était pour l'acceptation molle.
Tout à fait, l'acceptation molle. Alors, venons donc, et très honnêtement, je vous encourage à refaire ce petit exercice, peut-être pour plusieurs sphères. Dans le PDF que je vous donnerai, qui sera assorti à ça, vous allez aussi avoir un ensemble de questions à vous poser justement par rapport à cette acceptation molle pour y donner du sens, pour donner du sens à ce vers quoi vous voulez tendre. Parce que tant qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de motivation. Et il n'y a pas de motivation sans émotion. Donc vous devez ressentir cette émotion et vous pourrez, grâce à ce PDF, justement descendre au plus bas du sens que vous donnez au point de mire que vous vous êtes fixé dans la sphère que vous avez choisie.
Petite précision, le PDF c'est un bonus pour ceux qui achètent les conférences, hein. Ça c'est pas tout le monde.
Tout à fait, oui, effectivement. Voilà. Donc ceux qui achètent auront l'occasion de... Alors la résistance au changement, eh bien la résistance au changement, elle est présente en chacun de nous et tout le temps. Il s'agit là de trois nœuds. Nous avons notre propre capacité à résister au changement. C'est pas très compliqué dans la mesure où il y a en nous trois manières de résister au changement. Le premier, dans lequel sans doute vous allez vous reconnaître, c'est le regard de l'autre. Il est évident que quand on change, on a autour de soi toute une série de personnes qui vont nous être des Sanchez et qui vont nous dire « Allez, à quoi tu rêves ? Sois réaliste, c'est la crise. Tu n'as aucune compétence. » Je me rappelle d'une émission que j'ai vue par rapport à l'obésité. Et dans cette émission, il y avait deux amis qui, depuis toujours, se gavaient de merveilleux, de glace au chocolat, de lasagne farcie, à toute heure du jour et de la nuit, lorsque l'une des deux avait un chagrin, une difficulté, ou lorsqu'elle était face tout simplement à une peur ou quelque chose qui l'insatisfaisait. Une des deux a décidé de prendre les choses en main et de commencer un régime. Et elle a perdu plus de 60 kilos et donc elle est devenue pas mal du tout. Elle est passée de 120 kilos à 60 kilos. Mais son amie, elle, est restée sur place. Eh bien, dans l'émission, on voyait effectivement tout au début de l'émission, on voyait son amie qui disait « Je pense qu'elle n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, moi-même je me dis que si je dois perdre 60 kilos, je ne vais pas y arriver. » Et donc quelque part, elle disait « Ben oui, vas-y, cause toujours, tu ne les perdras pas, tes 60 kilos. » Et on les revoyait un an plus tard. Et un an plus tard, celle qui avait décidé de ne pas changer était extrêmement malheureuse et disait « Eh ben, pour moi, la vie n'est plus du tout la même, parce que avant, quand j'étais malheureuse, on mangeait à deux un merveilleux. Aujourd'hui, je suis toute seule. » Et effectivement, la résistance au changement, ce sont toutes les personnes qui, quand, et le regard des autres, ce sont toutes ces personnes qui, bien intentionnées, vont malgré tout essayer de vous faire rester là où vous étiez. Parce que, quoi qu'il en soit, quand vous dégagez, quand vous réussissez, quand vous vous mettez en route tout simplement et que vous commencez à poser un regard sur ce que vous avez envie de devenir ou d'être, eh bien, les autres sont renvoyés à leur propre inertie. Et la chose la plus importante à comprendre par rapport à ça, c'est que quand quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, quand quelqu'un joue à Sanchez, eh bien, cette personne-là vous apprend plus sur elle qu'elle ne vous apprend sur vous. Et donc la première chose, c'est d'être capable, pour résister, pour dépasser la résistance au changement, la première chose, c'est être capable de faire fi du regard des autres. Le changement les perturbera de toute façon. Le deuxième nœud à dépasser pour aller au-delà de la résistance du changement, c'est la peur de l'engagement. Et je me rappelle d'un stagiaire qui me disait « Écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup de suivre votre séminaire sur la réussite, mais par contre voilà mon projet et je vous demande de me dire si ce projet a des chances d'aboutir. » Et je lui ai répondu tout naturellement « Absolument aucune. » Ça ne l'a pas fait rire du tout et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit justement parce que si vous vous posez cette question-là, c'est que vous êtes déjà dans le doute. Et ce deuxième nœud à dénouer, c'est le nœud de l'engagement. Il n'y a pas pire ennemi pour nous que le doute. Et le doute, c'est nous-mêmes qui le provoquons, c'est nous-mêmes qui le mettons en route. Toutes les questions qui vont être des questions « est-ce que ?» est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce que je vais être reconnue? Est-ce que les médias vont parler de moi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ce sont toutes des questions que nous avons l'art de nous poser parce que nous avons le chic de nous laisser dans le doute. Et le doute ne vous permettra jamais d'avancer. Aucun projet n'accepte votre doute. Et ça va même plus loin, parce que vous pouvez être engagé à 99,9% dans votre projet. Si ce n'est pas à 100%, vous ne le réussirez pas. Ça veut dire que toutes les questions qui sont des questions « est-ce que » doivent être transformées par des questions « comment ?». Et donc le premier nœud à dénouer pour dépasser la résistance au changement, c'est le regard des autres. C'est être capable de faire fi du regard des autres. Le deuxième nœud, c'est être capable de dépasser notre doute en le transformant en engagement grâce à des questions qui sont des questions de solution et donc qui sont des questions « mais comment est-ce que je vais faire pour que les médias parlent de moi ? Comment vais-je faire pour être à la hauteur ? De quoi ai-je besoin pour pouvoir réussir cette entreprise ou réussir ce projet ?» Et le troisième nœud à dénouer, c'est le nœud de l'émotion. Il n'y a pas un projet dans lequel vous n'aurez pas d'émotion. C'est le principe même d'un projet, c'est le principe même de la réussite, c'est qu'on est face à soi et donc on est face à ses émotions. Alors moi, j'aime toujours beaucoup retourner à l'origine des mots. Et vous savez, le mot « émotion », je ne sais pas si vous avez une idée d'où il vient. Eh bien, le mot émotion, il vient de ex motion, c'est-à-dire faire un mouvement vers l'extérieur. Malheureusement, on nous a appris que l'émotion est quelque chose que nous n'avons pas le droit d'avoir. Et notre éducation judéo-chrétienne, et toutes les éducations d'ailleurs, en gros jusque maintenant, nous ont empêchés de même ressentir que nous avons des émotions, avec un couvercle qu'on a mis sur la casserole émotion. On sait que les hommes qui pleurent ne sont pas des hommes, que les femmes qui sont en colère ressemblent à des sorcières, que la peur ne doit pas être présente. Quant à la joie, nous avons bien appris que pour vivre heureux, il faut vivre caché, qu'il faut être humble par rapport à la réussite et que tout simplement aussi, il faut ne pas se réjouir parce que ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre demain. Alors que justement, les émotions sont les plus belles pancartes qui nous donnent la direction vers laquelle aller. Et je vais vous donner précisément le dictionnaire des émotions. Alors, que nous dit la colère? Et vous allez voir que chacune des émotions va vous amener à poser un acte vers l'extérieur. Pas une bombe à retardement que vous laissez à l'intérieur. Que nous dit la colère? La colère nous dit toujours, il y a quelque chose qui a été transgressé. Et concrètement, ce qui a été transgressé, c'est à nous de le découvrir. Ça peut être que quelqu'un a transgressé l'image de nous, que quelqu'un a transgressé notre territoire, que quelqu'un a transgressé notre projet, c'est-à-dire qu'il l'a repris à son compte. Il y a donc une transgression. Et qui dit transgression dit que, un, il faut savoir qui transgresse, qu'est-ce qui est transgressé et comment vais-je mettre mes limites. Deuxième émotion, la plus belle que j'aime, c'est la peur. La peur qui est présente tout au long d'un chemin vers la réussite. Et la peur, elle nous dit, oh là, attention, tu as une information manquante. Elle ne nous dit rien d'autre. Nous avons peur de quoi? De l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quoi? C'est justement cette information manquante. Et donc, lorsque vous êtes titillé par la peur, réjouissez-vous, parce que les questions à vous poser, c'est 1. Quelle est la question? Quelle est l'information qui me manque? C'est-à-dire concrètement, de quoi ai-je besoin pour ne plus avoir peur? 2. Où est-ce que je vais trouver cette information? Et 3. Comment est-ce que je fais pour la trouver? Et merci la peur parce qu'elle vous a fait avancer Et effectivement, elle a été au service de votre projet. Donc vous voyez, les émotions sont au service de notre projet. La troisième émotion, c'est la tristesse. Oh, la tristesse, magnifique. Eh bien, vous savez, la tristesse, c'est l'élément crucial d'un projet. Parce que quand on est en route vers la réussite, on est obligé de changer d'image de soi. Et la tristesse, c'est avant tout faire un deuil. Un deuil de qui on était. Oh oui, on était peut-être cet employé qui rouspétait tout le temps, qui donc avait l'attention de ses parents, qui avait la reconnaissance de son père qui a vécu la même vie. Et aujourd'hui, on décide de devenir indépendante, de se mettre à son compte et de créer une société de service pour les femmes qui ont des difficultés. Eh bien, nous ne serons plus comme nous étions avant. Nous ne serons plus cette petite fille qui sera dorlotée par son papa qui a eu la même carrière, mais nous devenons une femme qui prend ses responsabilités. Et la tristesse, c'est précisément dans le chemin de la réussite, ce moment crucial qui est un rite de passage et qu'il faut concevoir comme un rite de passage et qui vous dit, eh bien, à quoi est-ce que tu dis au revoir et à quoi est-ce que tu dis bonjour ? Et encore une fois, ça vous ramène aussi au regard des autres, parce que vous allez devoir endosser le costume qui vous est propre et plus du tout le costume de quelqu'un d'autre. Et venons-en à la quatrième émotion, la joie. Et on a le droit de se réjouir. Mais par contre, elle nous sert aussi à capitaliser, parce que quand on a réussi quelque chose, c'est pas le tout de dire « ouais, mais c'était facile ». Ce qui est important, c'est de pouvoir se dire « qu'est-ce que concrètement j'ai fait pour que ça réussisse ?» Qu'est-ce que concrètement j'ai mis en place pour être heureux ? Et comment, deuxième question, comment est-ce que je fais pour réutiliser cette nouvelle connaissance de mes compétences pour me permettre de réussir encore et encore des actions similaires ? Et donc la résistance au changement, c'est vraiment se prendre par la main pour dénouer les trois nœuds dont je viens de vous parler, qui sont un, le nœud de la reconnaissance qui empêche d'être responsable de soi. Deux, le nœud du doute qui empêche d'être à 100% engagé. Et trois, le nœud de l'émotion qui empêche d'être à 100% autonome. Et voilà le deuxième obstacle qui était donc la résistance au changement. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de prendre des notes, mais en tout cas, prenez toutes les dispositions possibles pour que vous ne soyez plus vous-même votre propre résistant au changement. Alors venons-en maintenant à ce troisième obstacle. Agir pour agir, mais pas pour réussir. C'est capital. J'ai souvent dans un séminaire quelqu'un qui me dit « Mais vous savez, j'ai téléphoné. » « Oui, ok, tu as téléphoné. » « Et ?»« Mais j'ai pas eu la personne. » « Et ?»« Ben, qu'est-ce que je peux faire ?» Ça, c'est agir pour agir. C'est-à-dire agir pour avoir bonne conscience. Agir pour pouvoir dire « J'ai fait tout ce qu'il fallait. » Mais c'est pas agir pour la réussite. Alors, justement, vous imaginez justement quelqu'un qui décide de se lancer, et c'est le cas d'un stagiaire que j'ai rencontré dans un séminaire, qui décide de se lancer dans le massage assis. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il était avant fonctionnaire dans une banque. Il décide de suivre des cours, il achète son matériel, il est fin prêt, il a demandé un an sabbatique à son employeur qui lui a octroyé, et voilà que maintenant il loue son premier espace dans une zone commerciale, bien au centre, bien en vue. Et le premier mois, il a effectivement passé les obstacles précédents, il a changé d'identité, il est plus fonctionnaire qui est calfeutré dans un bureau, il a l'occasion de voir d'autres commerçants, d'autres indépendants, des passants qui passent, il a l'occasion de parler, il est libre, il va à n'importe quelle heure à son travail, c'est lui qui décide de qui il est. Et il s'amuse beaucoup, il est heureux, Il propose même des massages gratuits aux commerçants qui l'entourent. 3 mois se passent et il voit son comptable. Et son comptable lui dit « Mais c'est une catastrophe, parce que vous n'avez absolument pas rentré l'argent nécessaire pour pouvoir rentrer dans vos frais en 3 mois. » Alors moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est un échec? Eh bien, la réponse à cette question, c'est une réussite. Parce que ce qui est important, c'est le pas que l'on a fait pour sortir de ses habitudes et pour passer au-delà de la résistance au changement. Maintenant, effectivement, il va devoir agir pour mettre en route ce qu'il faut pour réussir son nouveau business et réussir son activité de massage assis. C'est là maintenant que ça commence pour lui. Et il va effectivement aussi devoir repasser par les 2 obstacles précédents, l'acceptation molle. S'il se dit « Oh là, mais bon, ben voilà, mais c'est, y a rien à faire, c'est la crise, c'est peut-être pas un bon business, c'est là-dessus que les gens vont faire des économies, je me suis pas bien mis, je n'ai pas été visible, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais ça ne marche pas, j'ai même proposé des séances gratuites. » S'il se dit ça, il reste dans l'acceptation molle, qu'il va devoir dépasser avec le petit truc que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire d'identifier clairement où il sera à telle date. Il faut aussi qu'il redépasse la résistance au changement, parce que quand il va annoncer à sa femme, tu sais, formidable, j'ai lancé mon activité, mais on est en perte et je vais te demander de renflouer un peu les caisses de la famille. Quand il va devoir raconter à sa famille ou à son père que, ouais, c'est génial, ça change, c'est une nouvelle habitude, c'est un nouveau contexte, c'est agréable, mais financièrement, c'est pas tout à fait ce à quoi il s'attendait, eh bien, il va devoir aussi faire fi du regard des autres et aussi faire passer au-delà de sa propre résistance et commencer à réellement agir pour réussir pleinement son activité d'indépendant. Alors, bien souvent, justement, on est beaucoup trop personnes qui remettons à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Parce que, précisément, agir nous confronte à nous-mêmes. Tout acte a des conséquences. Et le problème, c'est que les actes qu'on pose vont avoir des conséquences pratiquement immédiates. Les choses vont de plus en plus vite. La roue tourne de plus en plus vite. Un acte posé aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans qu'il va porter ses fruits, c'est dans 3 mois, c'est dans 4 mois, c'est dans 6 mois. Donc les réactions par rapport à nos actions vont de plus en plus vite. Et donc, ce qui est important, c'est d'être capable aussi de comprendre que ce que la vie nous renvoie comme message, est un feedback. J'ai agi et je n'ai pas le résultat que j'attendais. C'est un feedback. J'ai créé un magasin, j'ai ouvert un magasin dans une grande avenue commerçante et je n'ai personne qui vient. Eh bien, rappelons-nous de ceci. Pas de feedback, c'est du feedback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les actions que nous avons posées ne nous renvoient pas le résultat que nous voulons obtenir, c'est un feedback qui ne nous dit pas « Grand Dieu, ton activité est mauvaise, lâche tout et recommence autre chose », mais qui nous dit « Il faut se poser maintenant la question de savoir quelles sont les actions à poser pour la réussite ». Et donc, si vous n'avez pas dans l'immédiat les résultats que vous voulez obtenir, considérez bien que c'est un cadeau de la vie qui vous dit « Je ne te donne pas de feedback, mais c'est un feedback en soi. » Donc à toi de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir aller vers la réussite à 100%.
Super. Genre,
voilà, effectivement. Oui, j'aime beaucoup cette phrase qui est peut-être aussi accolée au frigo. « Pas de feedback, c'est du feedback. » Et j'en viens maintenant au 4e obstacle. Mais avant d'aller au 4e obstacle, je vais vous poser une question. Et effectivement, je vais vous poser une question en vous demandant de prendre un bic, une feuille, et de penser à une personne qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. La seule contrainte, c'est que cette personne doit encore être en vie aujourd'hui. Et je vous propose d'écrire sur une feuille, non seulement le nom de cette personne, mais aussi qu'est-ce que vous lui diriez.
Et ça peut être n'importe qui ?
Ça peut être n'importe qui, du moment que cette personne soit encore en vie.
Et qu'est-ce qu'on doit lui dire précisément ?
Quel est le merci qu'on lui formule, c'est-à-dire en quoi cette personne nous a aidés, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire aujourd'hui, quel rôle elle a joué sur notre route, quelles qualités on lui reconnaît, comment est-ce qu'elle nous a aidés, comment est-ce qu'elle nous a guidés, etc.
Et merci, comme ça je fais l'exercice en même temps.
C'est très bien Caroline. Je vous laisse encore quelques petites secondes.
Oui, j'en ai déjà écrit 4, mais c'est vrai que c'est bien que... Ouais.
4 personnes déjà ?
Non, 4 qualités par rapport à la personne, pour les choses pour lesquelles...
Ok. Et maintenant, la question que je vous pose, c'est j'espère que la personne que vous avez identifiée était bien vous. Parce qu'en réalité, le seul dénominateur commun à toutes vos réussites, c'est vous-même et personne d'autre. Et je ne sais pas, Caroline, est-ce que c'est toi que tu as choisi ?
Non, mais pour moi, quand je projette sur l'autre des choses par rapport à moi, donc je retrouve les qualités que je vois chez l'autre, je les vois chez moi.
Tout à fait, et c'est bien souvent ce que d'autres personnes font. Et malheureusement, tant que nous n'avons pas réussi à capitaliser toutes ces qualités en nous-mêmes, notre compte en banque est en perte. Et remplir son compte en banque, c'est effectivement savoir se dire merci. Même si c'est aussi pouvoir dire merci aux autres. Mais bien souvent, la première personne à laquelle on ne dit pas merci, c'est soi-même. Alors dans les séminaires que je donne, je permets à chacun de trouver le petit diamant personnel qui brille en lui et qui va justement lui permettre d'être une personne à part. Et à partir du moment où on a pris et identifié ce petit diamant, eh bien, nous ne sommes plus les mêmes. Parce que, je dis souvent, c'est une expression que j'aime, parce que pour moi, elle me parle. Je dis souvent, eh bien, quand tu as identifié ce petit diamant, tu peux t'asseoir dessus. Je vais vous donner un exemple qui m'est très personnel, c'est que, en tant que formateur, en tant que conférencier, parfois, on est obligé de donner une formation ou une conférence, alors qu'on n'est pas tout à fait en forme. On a aussi nos problèmes, notre stress, nos difficultés. Je me rappelle, il y a bien 7 ans, je commence une formation et je me dis, Brigitte, ouïouïouï, ici, aujourd'hui tu n'es pas du tout en forme. Voilà. Et ça va se voir. Donc j'ai donné toute ma formation en ayant le sentiment de ne pas donner le meilleur de moi et en ayant le sentiment d'être un petit peu à côté. Et à la fin du séminaire, tous les participants ont applaudi. Et je leur dis, mais je vous remercie beaucoup. J'étais très étonnée. Et il y a quelqu'un qui me dit, waouh, quel dynamisme. Vous êtes capable de transmettre ce dynamisme. Et merci parce que je l'ai pris et j'en suis remplie. Je suis sortie très interloquée de ce moment parce que ça m'a appris quelque chose sur lequel aujourd'hui je peux m'asseoir. C'est que même si je ne suis pas en forme, je fais passer quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel, c'est la passion. Et donc aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, je peux m'asseoir sur la passion qui est en moi et la passion que je suis capable de dégager. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où j'ai capitalisé, Et donc, je me suis assise, j'ai rempli mon compte en banque. Voilà, c'est quelque chose que je ne remets plus en cause. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, quand je commence une formation pas tout à fait en forme, je me dis, de toute façon, ça va passer. De toute façon, l'essentiel qui est ma passion va passer. Et ça me rend fort.
J'ai deux petites choses, oui. Quand tu parles de compte en banque, c'est un peu notre compte en banque intérieur.
Intérieur, oui. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que je parle de capitaliser aussi. Oui. Je n'ai peut-être pas été très claire sur ce point-là, merci. Effectivement, le compte en banque, c'est notre compte en banque personnel. C'est là où on va capitaliser notre estime de nous. Parce que nous sommes les seules personnes capables de remplir ce compte en banque. Personne d'autre ne peut le remplir. Bien sûr, les participants ont aidé à remplir mon compte en banque. Mais j'aurais très bien pu dire, en sortant de là, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est pas possible. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu que j'étais pas en forme ?» J'aurais pu ne pas prendre ce qu'ils me donnaient. Et donc, alors qu'ils m'aidaient à remplir mon compte en banque, donc à capitaliser, j'ai dit « Je prends pas. Je refuse votre versement. » Alors que là, je me suis dit « Super, ça c'est quelque chose maintenant qui est acquis. Je laisse en compte en banque et il ne disparaîtra plus jamais. » Mais pour continuer sur l'idée, ce qui est important...
petite chose que je voulais te signaler, que nous avons encore... à peu près 6 minutes, donc c'est juste pour que tu saches ça par rapport à ton contenu, donc tu peux continuer.
Ok, ben, ça tombe bien. Et donc, effectivement, à partir du moment où on a capitalisé, on devient responsable. On devient responsable de tout. Regardez, j'étais un jour à une manifestation et je vois un homme qui me plaît par ses attitudes, par sa manière d'être, etc. Eh bien, en utilisant ce que j'avais dans mon compte en banque et rien d'autre, qui est simplement ma passion, et peut-être d'autres choses aussi, bien sûr, et d'autres choses aussi, eh bien, je me suis dit, je vais aller aborder cette personne parce que je deviens responsable de ce que j'ai envie de faire grâce à ce que j'ai mis dans mon compte en banque. Et il était tout naturel que la manière dont j'ai abordé cette personne était une manière passionnée. Alors que l'histoire ait démarré ou pas, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est le pas que j'ai pu effectuer grâce au fait que j'ai capitalisé sur ma confiance en moi. Alors, voilà, j'ai envie de dire, prenez cette habitude. Prenez l'habitude de dire merci à ceux qui vous entourent, mais d'abord, prenez aussi l'habitude de vous dire merci et de savoir à quoi vous vous dites merci et de remplir votre compte en banque. Prenez aussi l'habitude d'entendre les compliments. Trop souvent, quand on nous fait un compliment, moi j'adore le compliment qui est « Oh là, mais tu as un superbe beau pull, oui mais ne t'inquiète pas, je l'ai acheté au marché, ou je l'ai eu en solde. » Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ça? On prend en général difficilement les compliments. Or, c'est ça qui va nous remplir. Et je vais tout doucement mettre un point presque final à ce moment qu'on vient de passer ensemble, en vous disant ceci, c'est qu'effectivement, depuis 25 ans, comme Caroline le disait au début de cette conférence, je travaille dans le développement personnel. Et bien souvent, je découvre la grande souffrance qui empêche des personnes de se réaliser. Et cette grande souffrance, c'est parfois simplement parce que leur père, qui est mort aujourd'hui, est mort sans leur dire à quel point il était fier d'eux. Et puis un jour, dans un souper, dans une réunion familiale, avec des amis, la famille, les amis, apprennent que leur père avait dit à tout le monde à quel point il était fier de son fils. Mais il ne l'avait jamais dit à son fils, parce qu'il ne savait pas que son fils avait besoin de l'entendre. Et donc, d'où ma question. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas ce dont on a besoin? Je connais un homme marié depuis 25 ans, il espère tous les jours entendre sa femme lui dire « Merci mon chéri d'aller travailler à la maison pour que je puisse rester avec les enfants et les éduquer. » Mais il ne le demandera pas. Par contre, je connais une femme qui arrive très bien. Toutes les semaines, elle aborde le sujet avec son mari et lui dit « J'aimerais vraiment que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait à la maison et avec les enfants. » Alors il dit « Oh, c'est super, super !» Bien sûr, ça doit être vraiment sincère. Elle prend la responsabilité de demander. Elle prend aussi la responsabilité d'entendre. Elle prend aussi la responsabilité de capitaliser et peut-être de poser des questions supplémentaires à son mari, parce que le super-super n'est peut-être pas suffisant pour capitaliser. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a aimé cette semaine ? Alors, effectivement, je me rends compte qu'il est beaucoup plus facile de demander à dans un restaurant un steak saignant, qu'il est beaucoup plus facile de dire à une commerçante qu'on a besoin des chaussures en taille 36, mais on arrive difficilement à dire « j'aimerais que tu me vantes mes mérites », alors que c'est essentiel pour réussir. C'est essentiel d'avoir capitalisé. Et donc, j'ai envie de vous laisser sur ceci. Apprenez à demander à ceux qui vous sont proches, ceux qui vous sont proches, ce dont vous avez besoin, au lieu d'attendre ce qu'ils le devinent. Mais par contre, apprenez à deviner ce dont ils ont besoin, au lieu d'attendre qu'ils vous le demandent. Mais surtout, surtout, souvenez-vous que la valeur que vous aurez aux yeux des autres dépendra uniquement de la valeur que vous vous donnez. Et ça, ça se construit sur le trajet de la réussite. Je vous souhaite à tous une très belle réussite.
Merci Brigitte pour cette super conférence. Ça donne des tas d'envie, je trouve. C'est vraiment super. Merci à tous d'avoir écouté et merci Brigitte à toi pour cet excellent moment passé ensemble.
Merci aussi Caroline de m'avoir donné cette occasion.
Avec plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.